Vous écoutez, on lit pour vous.
Un an de recherche médicale en 10 temps, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 décembre 2024 dans la presse. Les secrets de l'Ozempic, amélioration à l'allaitement de patients, les origines de l'abus d'alcool et des maladies inflammatoires, les chercheurs québécois publient des centaines d'études qui font progresser notre connaissance du corps humain. Voici, dans le désordre, quelques-unes des plus marquantes parues en 2024. Éradiquer le VIH. L'une des premières vulnérabilités des réservoirs où le VIH se cache dans le corps humain a été identifiée par des chercheurs de l'Institut de recherche clinique de Montréal et des universités McGill et de Montréal. Le VIH se réfugie dans des réservoirs quand la trithérapie l'empêche de se reproduire et de causer le sida. Les patients sont alors asymptomatiques, mais dès qu'ils cessent le traitement, le VIH revient en force. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'éliminer avec des médicaments le VIH caché dans les réservoirs. Dans la revue High Science, des chercheurs montréalais montrent que ces réservoirs ont une faille qui pourrait être utilisée pour y envoyer des médicaments et enfin éradiquer le VIH. Du Viagra pour les bébés. Une première étape a été franchie dans l'utilisation du sildénafil, commercialisé sous le nom de Viagra, pour aider les nouveau-nés qui ont manqué d'oxygène à ou avant la naissance. Dans le Journal of Pediatrics de janvier 2024, des chercheurs de l'Institut de recherche du CUSUM et de Sainte-Justine ont montré que ce médicament est sûr pour les petits-enfants. Cette étude clinique de phase 1 a aussi montré des résultats préliminaires encourageants. Les bienfaits de l'exercice couché. Il est possible de contrer les effets délétères de l'allaitement prolongé avec 1 heure d'exercice en position couchée par jour, montrent des chercheurs de l'UQAM et des universités Laval, de Montréal, de Sherbrooke et McGill. Ils ont étudié 22 quinquagénaires qui ont passé 14 jours couchés, dont la moitié faisait 1 heure d'exercice par jour. Les membres du groupe actif n'ont pas eu d'impact, alors que ceux qui ne faisaient pas d'exercice ont eu des atrophies de muscles et de capacités cardiovasculaires et métaboliques. Ces problèmes, décrits en juin 2024 dans la revue Physiology, perduraient après la reprise de la vie active. Le mystère de l'Ozempic. Les médicaments comme l'Ozempic, qui aident notamment à perdre du poids en diminuant l'appétit, ont fait les manchettes cette année. Mais jusqu'à maintenant, leur action n'était pas bien comprise. Des chercheurs de l'Université Laval ont décrit en avril 2024, dans la revue Neuroendocrinology, une famille de neurones qui est impliquée dans l'action de l'Ozempic et des molécules semblables. Elle s'ajoute à 2 autres types de neurones dont le rôle dans le contrôle de l'appétit était connu. Protéger les intestins des bébés. La fumée secondaire et l'introduction hâtive de nourriture solide augmente légèrement le risque de troubles intestinaux inflammatoires chroniques, comme la maladie de Crohn, ont découvert des chercheurs de l'Institut national de recherche scientifique, des universités de Montréal et McGill et de Sainte-Justine. L'exposition à la fumée secondaire avant 3 ans et l'introduction de nourriture solide avant 6 mois augmentaient chacune le risque de 23 %. L'allaitement maternel semblait avoir des effets positifs, mais non statistiquement significatifs, et la présence d'animaux domestiques, ne changeait pas le risque de ces troubles inflammatoires, mesurés 40 ans après la naissance. L'étude a été publiée en octobre dans la revue Digestive and Liver Disease. L'alcool entre les générations. Les parents qui boivent fréquemment de l'alcool ont des enfants qui commencent à en boire plus tôt dans l'adolescence, selon une étude de chercheurs des universités Laval et de Montréal. Il s'agit d'une vaste étude qui a suivi 1632 familles québécoises pendant plus de 20 ans. Elle a été publiée en janvier 2024 dans la revue Addictive Behaviors. La consommation d'alcool des parents était mesurée à de nombreuses reprises avant l'adolescence de leurs enfants et celle de ces derniers entre 13 et 21 ans. Prédire la COVID longue. Il pourrait être possible de prédire la COVID longue en mesurant le taux de mortalité de soldats du système immunitaire humain appelé lymphocyte T4, a découvert un chercheur de l'Université Laval avec des collègues français. Début janvier 2024, dans la revue Frontiers in Immunology, ils ont montré que la mortalité des lymphocytes T4 au début de la maladie était 50% plus élevée chez les patients qui avaient encore des symptômes un an après. Les méfaits de la nanopollution. Les normes antipollution canadiennes ne réglementent pas les particules ultra-fines dont le diamètre est 10 fois moins grand que les particules fines visées par les normes. Mais leur présence en grande quantité augmente de 7,3% le risque de mourir, selon des chercheurs de l'Université McGill, qui ont travaillé avec des collègues ontariens et américains. Cela représente 1000 morts par an pour les villes de Montréal et de Toronto, estimait-il en août dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. La période de suivi était de 15 ans. DDT et spermatozoïdes. L'exposition aux pesticides DDT, interdit au Canada depuis 1990, altère toujours les spermatozoïdes des Inuits. Ceux-ci y sont encore exposés parce que le DDT s'accumule dans les mammifères marins et les poissons. Cela pourrait causer des problèmes de santé chez leurs enfants, selon des chercheurs du CHUM et des universités Laval et McGill. Dans la revue Environmental Health Perspectives, avec des collègues de plusieurs pays, il montre ses effets chez 47 Inuits du Groenland et 247 Sud-Africains d'ethnie Vavenda. Ces derniers sont exposés au DDT parce qu'il est encore utilisé dans la lutte anti-moustique en Afrique. Le perfectionnisme et les troubles alimentaires. Le perfectionnisme, causé par un désir de respecter des normes sociales, augmente le risque de troubles alimentaires, selon des chercheurs de l'UQAM. Ils ont étudié des questionnaires remplis par 229 gymnastes et nageuses américaines et ont qualifié leur perfectionnisme selon qu'il était orienté vers soi ou imposé par autrui. Dans le premier cas, le perfectionnisme menait parfois à une passion harmonieuse et parfois à une passion obsessive, liée à un plus grand risque de troubles alimentaires. Le perfectionnisme imposé par autrui menait uniquement à une passion obsessive. L'étude a été publiée en juillet 2024 dans la revue Psychology of Sport and Exercise. C'était un an de recherche médicale en 10 ans, un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 décembre 2024 dans la presse.
La glace ou l'eau pour le pain? un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mars 2024 dans la presse. Question de Claude Brault, un lecteur. Pour créer un maximum de vapeur dans un four quand on cuit du pain, doit-on utiliser de la glace ou de l'eau bouillante? L'eau bouillante pour avoir le plus vite possible de la vapeur, selon Christina Blais, qui a publié les livres « Le pain » de Christina et « La chimie des desserts ». On veut avoir de la vapeur durant la première moitié de la cuisson, dit Madame Blais. Alors l'idéal, c'est de mettre de l'eau bouillante dans un récipient en métal qui est déjà dans le four chaud. Mais comme ça fait de la vapeur immédiatement, certains mettent de la glace pour éviter les brûlures. On peut aussi vaporiser le pain avant de le mettre au four et ajouter quelques vaporisations dans le four en mettant le pain au four. Ces conseils valent pour le pain cuit sans protection dans le four. Pour les pains cuits dans un creuset ou un autre récipient fermé, l'humidité présente dans le pain est normalement suffisante, donc pas besoin d'ajouter d'eau ou de glace. Bruno Blais, spécialiste de mécanique des fluides à Polytechnique Montréal, explique que mettre de la glace dans un four chaud retarde un peu l'augmentation de l'humidité dans le four par rapport à de l'eau chaude. Il va falloir que la glace fonde en premier, ensuite elle sera transformée en vapeur. C'est une question de thermodynamique. M. Blais travaille sur d'autres types de fluides. J'étudie notamment l'impression 3D par fusion de poudre de matériaux. La poudre devient liquide puis se solidifie avec l'impression 3D. Est-ce qu'il y a encore des choses mal comprises dans la fonte d'un solide et la vaporisation d'un liquide? Je dirais qu'il y a davantage d'inconnus pour ce qui est de la formation de la glace à partir d'un liquide, dit M. Blais. Il faut un cristal pour entamer la formation de la glace. Souvent, ça va partir des impuretés. Mais quand on a un liquide très pur, par exemple de l'eau distillée, le liquide peut rester liquide bien au-dessous de la température de congélation. Pour revenir au pain, l'humidité permet d'avoir une croûte moins dure et au pain de prendre plus d'expansion parce que la surface mouillée reste flexible, selon Christina Blais. Idéalement, on met l'eau dans une poêle en fonte parce qu'elle conserve mieux la chaleur. On retire le récipient à mi-cuisson, à moins que toute l'eau soit déjà évaporée. Il faut éviter de cuire avec convection pour éviter que la vapeur sorte du four. Les fours à convection, comme les fours au gaz, sont ventilés et la vapeur n'est donc pas conservée aussi longtemps que dans un four électrique. Et attention, il ne faut pas verser l'eau directement dans le fond du four, et surtout pas sur la vitre du four, dit Madame Blais. Annie Ferland, du site Science et Fourchette, pense que mettre un glaçon dans le pain qui cuit dans un creuset peut être utile pour augmenter le coût de chaleur. Mais c'est sûr qu'avec un pain cuit sans protection dans le four, il faut de l'eau pendant au moins 20 minutes au début, dit Madame Ferland. En savoir plus, source de Wall Street Journal, 61% augmentation des ventes de farine à pain aux États-Unis en 2020 en raison du confinement pandémique. C'était « La glace ou l'eau pour le pain », un texte de Mathieu Perrault paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Doit-on avoir honte du pourboire qu'on donne? Un texte de Catherine Maisonneuve, paru le 24 mars 2024 dans La Presse. Un client quitte un restaurant après une soirée qu'il jugeait agréable, jusqu'à ce que, surprise, on lui envoie une publication devenue virale sur les réseaux sociaux. La serveuse, à qui il a laissé, selon lui, une somme plus que raisonnable, l'humilie publiquement pour avoir donné seulement 10 % de pourboire. Le fait de faire honte au client qui ne laisse pas un pourboire jugé suffisamment généreux, appelé « tip shaming » en anglais, est de plus en plus dénoncé sur la scène publique et passe de moins en moins. Il suffit de rechercher les mots-clés « TIP » plus « SHAME » pour réaliser à quel point ce phénomène prend de l'ampleur et que le débat fait rage. Le phénomène a commencé au retour de la pandémie aux États-Unis lorsque des serveurs se sont mis à dénoncer publiquement des clients qui quittaient le restaurant sans laisser un minimum de 20 % de pourboire. « Je déteste les Européens », a par exemple écrit la serveuse @madison.tayt, originaire de New York, sur Twitter. « Ils ont laissé 10 % de pourboire, alors qu'ici, c'est 20 %. » Sa publication a énormément fait réagir et la dite serveuse s'est tellement fait rabrouer que le tweet a été supprimé. Les internautes lui ont dit de blâmer la culture et non les clients, et que 70 $ sur une facture de 700 $ était un bon pourboire pour apporter quelques assiettes à une table. Une autre serveuse, @tamela.anderson sur TikTok, a également partagé avec ses abonnés une addition avec pourboire d'environ 10 à 15% qui aurait dû, selon elle, être de 20%. Les commentaires désobligeants n'ont pas tardé. « Le pourboire n'est pas obligatoire », a rappelé un internaute. « Tu devrais en vouloir au secteur de la restauration, pas aux clients », soulignait un autre. Plus discret au Québec. Au Québec, le phénomène existe aussi, mais se fait plus discret. Les serveurs mécontents vont s'exprimer sur leur page Facebook personnelle ou dans des groupes privés de travailleurs de l'industrie. Peu importe le moyen utilisé, les serveurs ne semblent plus tellement avoir la sympathie du grand public et ceux qui essaient de faire honte aux clients voient de plus en plus leur tactique se retourner contre eux. La plupart des publications du genre sont d'ailleurs rapidement retirées, ne trouvant pas le soutien recherché au départ. Pourtant, il y a à peine quelques années, on se montrait généreux lorsqu'on offrait du pourboire, surtout au retour de la pandémie, pour encourager les travailleurs de la restauration qui en avaient souffert. Désormais, la fatigue du pourboire semble généralisée et bien installée dans la société. Les clients se sentent culpabilisés de ne jamais laisser assez de pourboire, surtout depuis que les fonctions « pourboire » sur le terminal affichent un minimum de 18 %. On a définitivement atteint la limite. Avec l'inflation, la facture moyenne du client au restaurant a explosé et le client a une capacité de payer de plus en plus limitée. En tant qu'industrie, on doit se questionner. Est-ce qu'on préfère faire 20 tables qui payeront 20 % de pourboire ou 30 qui offriront 15 % parce qu'on ne peut pas tout avoir, souligne Laurent Godbout, chef et restaurateur. Au Québec, donner 15 % de pourboire au restaurant a toujours été la norme. Mais notre 15 % est additionné sur le total de la facture, qui comprend déjà 15 % de taxes. Le client se retrouve donc à payer 30 % du prix de sa facture, ce qui est énorme. Les restaurants qui ont récemment modifié leur terminal pour proposer des options de pourboire de 18, 20 ou 25 demandent en fait au client d'ajouter 40 % de frais au total de sa facture, résume le chef. Effectivement, la culture du pourboire aux États-Unis, où les taxes sont moins élevées, semble tranquillement avoir fait son chemin jusqu'au Québec. Les terminaux de paiement ont subtilement changé leurs options dans de nombreux restaurants de la province. Les 15, 16 et 18 % sont devenus 18, 20 et 25 %, ce qui crée un malaise chez le client qui se sent obligé de laisser plus que ce qu'il voudrait. Refiler la facture au client. Robert Dion éditeur du magazine spécialisé HRI Mag, qui s'adresse aux professionnels de la restauration et qui s'intéresse à la question, est des plus tranchants sur la culture du pourboire. « Ça n'a plus de bon sens », lance-t-il. « Je milite depuis longtemps pour qu'on ait une solution. On a poussé dans la cour des clients l'augmentation des salaires, puis l'inflation, mais on ne peut pas leur mettre ça sur le dos, sinon on va les perdre. » Il rappelle que, bien que la culture américaine du pourboire, les fameux 20%, soit arrivée au Québec, on n'a pas la même réalité économique que nos voisins du Sud. Au Québec, le salaire minimum est à 15 $. Aux États-Unis, il est d'environ 9 $. On ne peut pas se dire simplement « Ils font ça aux États-Unis, faisons la même chose ». Selon lui, la limite est atteinte et les restaurateurs n'auront pas le choix de se rétracter et les serveurs d'accepter que 20 % de pourboire, ce n'est pas la norme. Un récent sondage relayé dans HRI Mag, indique d'ailleurs que 62 % des Canadiens ont laissé un pourboire plus élevé que désiré en 2023 uniquement parce qu'ils s'y sentaient forcés en se voyant offrir les options du terminal. Les résultats du sondage démontrent clairement que les tactiques des commerçants pour inciter les consommateurs à laisser plus de pourboire fonctionne, mais ils risquent de s'aliéner leur propre clientèle dans un contexte où on essaie tous d'adapter notre budget à l'inflation. C'était « Doit-on avoir honte du pourboire qu'on donne? » Un texte de Catherine Maisonneuve, paru le 24 mars 2024 dans La Presse.
Petit guide pratique des allergies aux animaux. Un texte commandité paru le 20 mai 2024 dans La Presse. En plus d'être mère d'adolescents, la docteure Lucie Hainaut veille aussi au mieux-être de deux chats et de deux chiens, tous des animaux de la seconde chance. Je suis folle des animaux et ça aurait été déchirant si un de mes enfants s'était avéré allergique, confie la médecin vétérinaire et fondatrice du groupe d'établissements vétérinaires Flair et compagnie, ainsi que du webzine du même nom. Est-ce prudent d'endurer les éternuements, les larmoiements et les démangeaisons par amour pour une adorable boule de poils? Voici ce qu'il faut savoir sur ce type d'allergie. Les réactions allergiques ne sont pas provoquées par le poil des animaux. C'est plutôt une protéine sécrétée par des glandes et présente dans la salive, de même que dans les peaux mortes, qui est en cause. Toutes les races de chats et de chiens peuvent en être productrices. Les lapins et les oiseaux peuvent être considérés comme des solutions de remplacement, mais une personne allergique à certaines espèces demeure plus à risque de l'être également à d'autres, met en garde la docteure Hainaut. Pour en avoir le cœur net, elle suggère aux gens de veiller quelques jours sur l'animal de compagnie à adopter, par exemple pendant que ses maîtres partent en vacances. Les symptômes d'allergie sont à prendre au sérieux. Le système immunitaire d'une personne allergique considère la protéine problématique comme une menace à éliminer, et ce, même si elle s'avère inoffensive. Les symptômes ressentis sont en quelque sorte les dégâts collatéraux de ce conflit interne. La réaction du système immunitaire est exagérée et devient elle-même dangereuse pour le corps, dit Dr. Lucie Hainaut. Une personne allergique pourrait ne ressentir aucun symptôme en présence d'un certain animal, puis avoir une réaction sévère auprès d'un autre de race identique. Une collègue de la Dr. Hainaut, par exemple, a dû se rendre à l'hôpital d'urgence après avoir été en contact avec un chien boxeur spécifique, même si elle avait l'habitude de côtoyer des animaux semblables, sans trop de problèmes. Certains animaux provoquent moins de réactions allergiques que d'autres. Les races de chiens, qui nécessitent un toilettage régulier, tels que les schnauzers, les westies et les caniches, sont généralement mieux tolérés que d'autres par les personnes allergiques. Même chose pour les félins sans poils ou à pelage court comme le sphinx et le bengale. C'est faux de prétendre que certaines races de chiens ou de chats sont 100% hypoallergéniques. Ça n'existe tout simplement pas, affirme Dr. Lucie Hainaut. En cas de doute, il est préférable d'adopter un animal adulte de petite taille. Si vos allergies sont occasionnelles ou plutôt tolérables, et que vous avez malgré tout décidé de vous procurer un animal. La vétérinaire recommande l'adoption d'un animal adulte ayant fait l'objet de contacts réguliers auparavant. Certaines personnes n'ont aucune réaction lorsque l'animal est un chaton ou un chiot, puis voient de premiers symptômes apparaître une fois la maturité atteinte. Enfin, choisir une race de petite taille limite la présence d'allergènes dans l'environnement. Il est tout à fait compréhensible qu'un chihuahua produise moins de peau morte et de salive qu'un Saint-Bernard. Quelques bonnes habitudes aident à gérer les allergies légères ou modérées. Ne pas laisser son compagnon à quatre pattes dormir dans la chambre à coucher. Le brosser tous les jours à l'extérieur et idéalement par une personne non allergique. Le laver chaque semaine, passer l'aspirateur, ouvrir les fenêtres ou utiliser un purificateur d'air doté d'un filtre HEPA. Tout ça contribue à réduire la concentration d'allergènes dans le milieu de vie. Il existe également des shampoings spécialement formulés et même une nourriture pour chats qui diminue la production de la protéine responsable des allergies, ajoute la Dr. Hainaut. Aucune solution n'est magique en soi, mais la combinaison de ces différentes mesures se révèle parfois bénéfique. C'est malheureux, mais il est déconseillé aux personnes qui présentent des problèmes respiratoires ou des allergies sévères de vivre en présence d'animaux. Il n'y a personne à blâmer lorsqu'un membre de la famille est asthmatique ou gravement allergique. Il ne faut pas se sentir coupable, mais plutôt trouver une autre superfamille qui pourra accueillir l'animal. On ne peut pas demander aux gens de compromettre leur santé à ce point, rappelle Dr. Lucie Hainaut. Pensons à la famille de la Dr. Hainaut où deux chiens et deux chats reçoivent beaucoup, beaucoup d'amour. C'était « Petit guide pratique des allergies aux animaux », un texte commandité paru le 20 mai 2024 dans La Presse.